Bonjour Jean-Baptiste Placat.
Bonjour Alexis Guilleux.
Votre regard sur l'actualité de la semaine avant les primaires socialistes, Manuel Valls s'était offert une petite tournée africaine. François Fillon, le candidat de la droite et du centre, a lui aussi sacrifié à ce qui est en passe de devenir une tradition. Emmanuel Macron, lui, s'est limité à l'Algérie et voici que Marine Le Pen s'annonce au Tchad pour rencontrer les troupes françaises. Verra-t-elle le président Déby Itno ? L'Afrique serait-elle en train de devenir, Jean-Baptiste, une terre électorale où se jouerait en partie la présidentielle française ?
S'il y a un enjeu à tous ces voyages, alors il est très peu électoral car le nombre de Français votant dans la plupart de ces pays ne justifie pas de si longs déplacements. Le corps électoral dans tout le Mali équivaut péniblement à la population du seul premier arrondissement de Paris. Certes, une voix est une voix, mais s'ils sont réellement à la recherche de suffrages, alors les candidats feraient un meilleur usage de leur temps en écumant des contrées moins éloignées et plus peuplées de Français. En revanche, depuis 1981, la présidentielle française s'est parfois jouée en terre africaine, souvent pour le pire, comme avec les tristement célèbres diamants de Bokassa. Et depuis, pour à peu près toutes les présidentielles, l'on parle plus souvent de l'Afrique pour de présumés financements occultes que par rapport au poids décisif des électeurs français du Gabon ou du Burkina dans le choix du nouveau président.
Mais alors comment expliquer, Jean-Baptiste, que les Africains, eux, soient toujours si intéressés par l'élection présidentielle en France ?
Sans doute en raison des conséquences qu'a longtemps eu ce type d'échéance sur le destin des populations de toutes ces anciennes colonies françaises que l'on considérait naguère à Paris comme le précaré africain. Sauf que le précaré n'existe plus simplement parce qu'il n'y a plus en France de lieu où s'élabore une stratégie, une réelle politique africaine. L'on serait tenté de dire tant mieux, car lorsqu'il s'en élaborait une, la finalité de cette politique visait rarement les intérêts supérieurs des peuples africains. Elle préservait plutôt ceux de la France qui coïncidaient rarement avec ceux des jeunes nations africaines. C'est d'ailleurs ainsi que les dictatures improductives qui ont tant nuit à l'Afrique et l'ont mise dans l'état dans lequel elle est, ont pour la plupart été suscitées, soutenues et maintenues au pouvoir par Paris. Certes, les élites africaines, aux manettes au lendemain des indépendances, assument leur part historique de responsabilité dans tout cela, mais nous parlons ici d'une génération qui n'est déjà plus là pour répondre de ses choix et de ses actes passés.
Peut-on les condamner ainsi, ces élites toutes en bloc, sans aucune nuance ?
Non, évidemment. L'élite qui a conduit les pays à l'indépendance avait même pour certains un réel courage. Si ces cadres ont eu des défaillances, cela tenait davantage à la nature des indépendances, conquises ou concédées, qu'à leurs compétences intrinsèques. La plupart sortaient des universités françaises, américaines, soviétiques ou de l'École normale fédérale de l'Afrique occidentale française, William Ponty de Dakar. Et certains de ces cadres se retrouvaient, par exemple, dans des cabinets ministériels, à cohabiter avec des conseillers techniques qui avaient été leurs camarades dans les écoles et universités françaises. Des camarades que la plupart d'entre eux surclassaient, mais qui, dans leur propre pays, avaient plus de pouvoir et jouissaient de plus d'égards qu'eux.
Comment peut-on affirmer cela comme cela ?
Parce que l'on considérait dans la haute administration française les sujets que l'on envoyait en Afrique comme les moins brillants de leur promotion. On les désignait d'ailleurs par une expression « bon pour l'Afrique ». Ces conseillers techniques étaient là malgré tout pour préserver les intérêts de la France. Leur résister revenait souvent pour les cadres africains à courir le risque d'être considérés comme étant anti-français et cela pouvait se payer cher. Les réseaux FOCA étaient là pour veiller à cela et bien des carrières ont été ainsi ruinées.
Comment passe-t-on, Jean-Baptiste, des intérêts de la France à tous ces financements occultes, si souvent décrits par l'avocat Robert Bourgi, à nouveau dans l'actualité depuis hier ?
Ce que l'on vend aux chefs d'État africains, c'est le privilège d'avoir un ami à l'Élysée, ce qui, partant de contestations internes, peut être une assurance tout risque. Et parce que les porteurs de valises, un jour ou l'autre, se sont mis à parler, les populations africaines savent désormais se saisir du moindre petit indice pour construire des histoires de milliards que les dirigeants africains laisseraient s'échapper à travers divers canaux indétectables, y compris pour les organismes en charge du contrôle des comptes de campagne.
Merci Jean-Baptiste Placa.
Merci Alexis.